Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques.
Ne nous lâchez pas. Ne nous laissez pas. Prouvez-nous que vous êtes européens.
Prouvez-nous que vous êtes européens, c'est par ces mots prononcés devant le Parlement européen mardi dernier que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a peut-être lancé à l'Union européenne le plus grand défi de son histoire. Que faire pour aider l'Ukraine? Que faire pour empêcher l'invasion d'un pays souverain par un voisin plus puissant? Comment être à la hauteur du tragique de l'histoire tout en évitant au continent de sombrer dans une guerre totale et destructrice? Faut-il, comme le souhaite Emmanuel Macron, qui en a fixé l'enjeu du sommet européen de Versailles jeudi et vendredi prochain, construire une Europe souveraine et indépendante pour se protéger durablement? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à notre invité, un homme au cœur de la crise qui était il y a quelques jours en Pologne pour mesurer sur le terrain les effets de la guerre dans l'Union européenne où les réfugiés ukrainiens affluent par centaines de milliers, le président du Conseil européen Charles Michel est l'invité de Questions Politiques.
Questions Politiques. Thomas Negarov sur France Inter.
Question politique, l'émission politique du dimanche de France Inter à la radio, de France Info à la télévision Canal 27 en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Charles Michel.
Bonjour.
J'ai une première question toute simple de pédagogie. Président du Conseil européen, ça veut dire quoi?
Mais le Conseil européen, c'est l'institution européenne qui rassemble les 27 gouvernements nationaux et dont je dirige la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est une instance qui a pris beaucoup d'importance après la crise du Covid qui nous a amené à être en première ligne et maintenant avec une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Vous imaginez que cette instance joue et va jouer un rôle important.
Alors pour vous poser des questions, je serai en compagnie de la bande de questions politiques comme chaque dimanche. Nathalie Saint-Cric pour France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour
Claire Michel. Gatinois du Monde. Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour Monsieur Michel, bonjour à tous.
Karine Bécard de France Inter est avec nous également.
Salut tout le monde.
Bonjour Karine. Et Alexandra Ben Saïd également de France Inter nous rejoindra pour une solide page économie. Dimension essentielle évidemment de la guerre en Ukraine et de la crise profonde entre l'Union européenne et la Russie. J'ai une première question pour vous, Charles Michel. Dans l'actualité immédiate, on en parlait dans le journal il y a un instant, l'évacuation des civils de Mariupol. Les autorités de la ville annoncent en principe la mise en place d'un corridor. Au moment où on se parle, avez-vous des informations à ce sujet?
Ça fait plusieurs jours que l'on est de manière très très étroite, notamment via la Croix-Rouge, mais via aussi des pourparlers directs entre Ukraine et Russie, la question humanitaire. Et il est impérieux, urgent, essentiel de garantir des couloirs sécurisés pour le plan humanitaire, pour permettre aux civils d'être évacués et pour permettre aussi aux travailleurs humanitaires de se déployer sur le terrain. Pour être concret, il y a une dizaine de villes principales qui sont assiégées ou encerclées en tout ou en partie, et pour lesquelles on tente d'engager la Russie dans des pourparlers directs, techniques, concrets, opérationnels, afin d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au minimum un peu de respect pour les questions humanitaires.
Alors on reviendra sur la question humanitaire un peu plus tard dans l'émission. Nathalie?
Non, je voulais simplement savoir, vous dites on tente, mais est-ce qu'on réussit?
On ne réussit pas, puisque pour l'instant, vous avez observé que lorsque l'on pensait que des accords étaient conclus, manifestement, il y a eu des cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés.
Charles Michel, il y a quelques jours, vous appeliez au calme, à l'unité, à la fermeté face à la Russie. Ce matin, le chef d'état-major français des armées compare les forces de Poutine à un rouleau compresseur qui risque de finir par passer. Est-ce que le temps du calme doit laisser désormais la place à l'inquiétude, voire au pessimisme? Est-ce que la diplomatie est encore envisageable face à un tel rouleau compresseur?
Mais c'est certain, c'est qu'on doit faire preuve de sang-froid, on doit être intelligent et on doit faire preuve de fermeté, c'est tout à fait certain. Et il y a deux piliers dans l'action de l'Union européenne. D'une part, effectivement, c'est la fermeté au travers des sanctions, on en reparlera certainement, qui sont inédites, sans précédent et qui ont des premiers effets, on y reviendra. Et puis, c'est l'ADN de l'Union européenne, on pense que le dialogue doit toujours être possible. Et c'est en cela que, par exemple, le président Emmanuel Macron et d'autres également sont engagés pour maintenir un fil qui est un fil fragile, qui est un fil étroit, qui est ténu, avec de la frustration. Parce qu'on voit bien que jusqu'à maintenant, tous ces efforts qui sont gigantesques n'ont pas permis d'aller vers une désescalade, n'ont pas permis de cesser les hostilités. Mais il est certain que l'on doit maintenir ce canal diplomatique, même si, dans le court terme, les espoirs sont, soyons sincères, limités sur le terrain diplomatique.
Qui pourrait avoir les meilleures qualités pour réussir à parler à Vladimir Poutine, pour réussir à le freiner?
Donc, je pense que c'est important que l'on démontre que ce n'est pas une opposition entre la Russie face à l'Union européenne et à l'OTAN. Et c'est pour cela que l'on a été très très actif pour bien démontrer qu'il y a une coalition très très large, bien au-delà de l'Union européenne, de l'OTAN, avec l'Afrique, avec l'Indo-Pacifique, l'Amérique latine, qui dit très clairement c'est inacceptable parce qu'il y a une rupture brutale, flagrante du droit international. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément sur le plan européen, il est certain que le président Macron, avec son expérience, avec sa compréhension et sa connaissance sens de la situation, est très très engagée. Et je pense que le rôle qui est joué par le président Macron, qui plus est avec la France qui a la présidence rotative de l'Union européenne, est évidemment extrêmement important.
On a l'impression que cette diplomatie européenne est en train de se faire dépasser, enfin il n'y a pas d'aspect péjoratif dans le mot que j'utilise, mais par d'autres diplomaties. On a vu Israël, le Premier ministre israélien tenter sa chance lui également. Aujourd'hui, Vladimir Poutine doit discuter avec le président turc. On voit que c'est en train de tourner. Tous ces acteurs-là, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être plus intéressant qu'un autre ?
Mon impression, ce serait évidemment une erreur de voir une compétition diplomatique. Il n'y a pas de compétition diplomatique, dès lors que tous les acteurs dont vous parlez ont le même objectif et ont la même stratégie et on se coordonne énormément. Je parlais hier très longuement avec le président Erdogan. On est en contact permanent avec Joe Biden, avec Boris Johnson, avec Justin Trudeau. Nous sommes en contact permanent avec ceux qui peuvent avoir un impact pour faire pression sur le régime à Moscou afin d'infléchir la position du régime à Moscou. Et donc le cocktail que l'on active, c'est un cocktail de fermeté et des sanctions qui sont très dures, très rugueuses, et en même temps le souhait de garder un canal de dialogue. Un canal de dialogue sur différents éléments, sur les questions humanitaires, on en a parlé, c'est indispensable, mais également sur les modalités pour aller vers une désescalade et pour tenter d'éviter que le conflit ne s'aggrave et que le conflit ne s'étende.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'ADN de l'Europe, c'était la discussion, c'est peut-être aussi la faiblesse de l'Europe qu'a su exploiter Vladimir Poutine. J'aimerais qu'on revienne sur les questions militaires avant d'évoquer les questions plus profondes, peut-être sur l'identité même de l'Europe. Volodymyr Zelensky a supplié plusieurs fois l'Europe et notamment et l'OTAN également de fermer l'espace aérien de l'Ukraine pour éviter les bombardements aériens russes qui sont terribles pour les civils notamment. L'OTAN a refusé. Pourquoi ?
Mais l'OTAN a refusé et l'OTAN a expliqué pourquoi l'OTAN a refusé. Parce que l'interprétation de l'OTAN, c'est que poser cet acte-là dans les circonstances actuelles sera considéré comme une entrée en guerre de l'OTAN et donc un risque de Troisième Guerre mondiale. Il faut dire les choses aussi simplement qu'elles ne le sont en réalité. Et c'est évidemment un sujet qui est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a exactement 8 jours, samedi matin, la semaine passée, le week-end passé, le président Zelensky m'a appelé très très tôt le matin parce que de nouveau, la nuit avait été dure sur le plan militaire. Et en lançant un appel au secours, en disant si vous ne pouvez pas mettre en place une zone d'interdiction aérienne au sud de l'Ukraine, au minimum, livrez-nous des armes.
Ce qui n'a
jamais été le cas sur le plan européen jusque-là. Et ça montre que quand on est confronté à l'essentiel, l'Europe peut parfois agir vite et fort. Et c'est ce samedi matin que j'ai donné l'instruction aux hauts représentants de lancer ce qu'on appelle la Facilité Paix. C'est un fonds intergouvernemental qui permet de livrer des armes. Ça n'avait jamais été utilisé. Et on a réussi en quelques heures à prendre cette décision, puisque le principe a été engagé le samedi matin et le dimanche, en fin d'après-midi, formellement, les ministres approuvaient la décision.
Alors, justement, où on en est des livraisons d'armes ? Ils demandent aussi des avions, manifestement. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment la notion d'armes défensives ?
Oui.
Jusqu'où on a le droit d'aller pour ne pas être considéré comme belligérant ? Et est-ce qu'on peut contourner justement la règle qui fait que l'OTAN ne doit pas s'en mêler ?
D'abord, je reconnais l'effet relatif du concept d'armes défensives, parce qu'une arme est une arme, et quand on parle d'un équipement qui est létal, c'est un équipement létal. Mais sans doute, les militaires vous expliqueront bien mieux que moi que certains types d'armes sont catégorisés d'une manière ou d'une autre manière. Mais soyons opérationnels et concrets. Lorsque nous avons pris cette décision le week-end passé, on a décidé de mobiliser 500 millions d'euros, 450 pour des équipements létals, 50 pour des équipements non létals. C'est beaucoup parce que ça vient en addition à ce que les 27 États membres peuvent faire. Pas les 27, parce que tous ne vont pas le faire, mais au minimum une vingtaine, peut-être même plus qu'une vingtaine, ont déjà décidé d'engager des livraisons, et les livraisons ont démarré immédiatement, dès le week-end. Les premières livraisons ont démarré. Et donc ce sont des équipements qui ont vocation à défendre, puisque c'est ça l'objectif, par exemple des batteries anti-aériennes, par exemple des batteries anti-chars, c'est ce type d'armes. Donc ce sont des armes qui sont des armes sérieuses pour venir au secours des Ukrainiens qui sont sous la pression militaire qui est extrêmement massive. S'agissant des avions, évidemment, c'est pas que 500 millions d'euros que l'on achète des avions.
Et en plus, il faut qu'ils soient formés. Ça peut pas être n'importe quel avion.
Et donc là, on est dans le champ effectivement de la coordination avec des États membres qui peuvent envisager des livraisons ou des donations de matériel en lien avec le secteur aéronautique. Mais on doit prendre en considération le fait qu'on a besoin que les militaires ukrainiens disposent de matériel qu'ils puissent utiliser.
Ils doivent
être formés pour utiliser ce matériel. Et je n'ai pas l'intention de commenter beaucoup ce sujet-là, parce qu'on mesure bien la sensibilité. Évidemment, il est certain qu'on ne va pas communiquer sur les manières dont on procède et quels sont les équipements exacts qui sont livrés.
Claire Gatinois.
Pour contrarier les Occidentaux, Vladimir Poutine ne cesse d'agiter la menace nucléaire, menace évidemment terrifiante.
Est-ce que selon vous, c'est du bluff? Et que faire? Comment réagir face à cette menace?
Moi, je pense qu'il faut prendre toutes les menaces au sérieux, parce que nous avons vu que les dernières semaines, les services d'information, d'intelligence, comme on les appelle en Europe et aux États-Unis, considèrent qu'il y avait plusieurs options d'invasion. Une option était le Donbass et la région autour du Donbass. Une autre option plus maximaliste était aussi envisagée, et c'est l'option maximaliste qui a été choisie par Vladimir Poutine. Le premier jour, les premières 24 heures, 160 missiles ont été tirés.
Donc les Américains se sont
pas trompés, en fait. L'Ukraine. En fait, la vérité, c'est que les services de renseignement américains avaient raison, mais que les services européens avaient raison aussi, parce qu'on avait la même information. Simplement,
mais vous ne vouliez pas voir cette information?
Non, bien sûr que si, on voulait la voir. Mais nous avions, dans les coordinations qui étaient permanentes avec les Américains, nous devions politiquement essayer d'analyser quelles étaient les conséquences en termes d'options possibles pour prédire autant que possible les actions. Mais reconnaissez qu'on avait bien compris que la situation était extrêmement sérieuse. Finalement, c'est l'option maximaliste qui a été décidée. Le nucléaire, maintenant, un mot par rapport à cela. Parce qu'effectivement, nous faisons face à un pays qui déclenche une guerre sauvage, illégale, fabriquée sur des mensonges. Et c'est un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Et c'est un pays qui est membre, d'ailleurs, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a quelques jours, à 1h du matin, en pleine nuit, le président Zelensky m'a téléphoné, ainsi qu'à d'autres leaders, parce que on était confrontés à une attaque qui était en cours avec de l'artillerie, avec des missiles en destination, qui visaient la principale, la plus grande centrale nucléaire en Europe, qui est basée en Ukraine, avec 6 réacteurs nucléaires sur cette centrale. Nous avons évidemment réagi en coopérant directement avec la France, bien sûr, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, pour tenter d'engager des pourparlers au niveau technique militaire avec les Russes, pour permettre qu'au minimum, les services de secours, incendie, pompiers, puissent limiter et maîtriser cette
mais comment éviter le pire? Comment éviter les bombardements?
Ça montre bien ce qui s'est passé, dont j'y viens. Ça montre bien que l'on doit maintenir cet engagement. Et là, je suis très, très concret. L'Agence internationale nucléaire doit jouer pleinement son rôle. J'ai eu l'occasion de parler vendredi avec M. Grossi, qui est très, très impliqué en pourparler avec les autorités ukrainiennes, avec les autorités russes. Nous soutenons totalement son action au niveau technique. C'est pas lui qui va effectivement obtenir un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix. Mais il doit au minimum faire la démonstration que l'on donne des occasions à la Russie de garantir qu'il est possible de trouver des arrangements techniques pour sécuriser les sites des centrales nucléaires. Ce serait une manière pour la Russie de montrer qu'il y a une certaine bonne volonté, si je peux parler de cela, s'agissant de la question nucléaire.
Vous pensez qu'on peut encore parier sur la rationalité de Vladimir Poutine aujourd'hui?
On n'a en tout cas pas d'autre choix que d'être au contact avec celui qui aujourd'hui est dans le fauteuil au Kremlin. Il n'y a pas d'autre hypothèse de travail que celle-là. Et on parle à différents niveaux. On parle avec les responsables aux affaires étrangères, avec les ambassadeurs, on parle avec les militaires, on parle à différents niveaux. Et un certain nombre de conversations n'ont pas vocation à être publiques, parce que si on veut essayer de progresser, parfois la discrétion est une étape nécessaire.
La question qu'on a tous en tête, c'est jusqu'où ira Vladimir Poutine? Et là, j'en appelle à Charles Michel, Premier ministre de Belgique, puis président du Conseil européen, qui connaît bien Vladimir Poutine et qui l'a peut-être vu évoluer depuis 5, 6, 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de l'homme Vladimir Poutine et de son degré de résolution?
En tout cas, moi j'ai observé ces derniers mois, dans les conversations longues que j'ai pu avoir avec lui, qu'il y avait chez lui une obsession pour l'Ukraine, une obsession pour le Donbass, pour la Crimée, pour les accords de Minsk, parce que la plupart des conversations que j'ai pu avoir avec lui durant les derniers mois, l'essentiel était consacré aux détails des accords de Minsk, à la mise en œuvre des accords de Minsk. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et je pense que la plupart des observateurs, à juste titre, l'ont mis en évidence, on voit bien qu'il y a probablement un élément qui touche à la nostalgie de l'Empire et à l'impression que cette guerre froide, finalement, n'était pas vraiment terminée. Peut-être que nous avons pensé que cette guerre froide était terminée, peut-être que lui ne pensait pas que la guerre froide n'était pas terminée et qu'il y avait encore cette occasion ou cette nécessité pour restaurer la zone d'influence de l'Empire soviétique. C'est un peu ça, ou tsariste peut-être même, la démarche. Ce qui veut donc dire, pour être très clair, que nous devons prendre très au sérieux ce qui se passe en Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est que l'Ukraine est en quelque sorte une forme de rempart pour protéger les valeurs que l'Ukraine a choisies. Quel est le reproche fait par Vladimir Poutine à l'Ukraine. C'est la place Maïdan, en réalité. C'est ça, l'obsession.
2013.
C'est le moment où cette génération a eu le courage de se lever, au péril de leur vie déjà, pour regarder vers les valeurs que nous incarnons. La démocratie, l'état de droit, l'indépendance de la justice. En fait, le monde libre, c'était ça, en réalité. Et c'est ce point de départ-là qui indispose Vladimir Poutine. Et on voit qu'il n'y a pas que l'Ukraine. On voit qu'il y a dans les Western Balkans, dans les Balkans occidentaux, pour parler en français, dans les Balkans occidentaux, on voit qu'il y a dans les pays aux frontières de l'Union européenne, la tentation d'utiliser cette nouvelle doctrine qui a été inventée par un militaire russe, la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre non conventionnelle, utilisant la propagande, les cyberattaques, la déstabilisation, les mensonges, les manipulations, les pressions de tous ordres. Et donc on doit effectivement prendre la mesure que ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, on ne peut pas le subir, mais on va devoir faire preuve d'intelligence.
Quand Emmanuel Macron parle de paranoïa en qualifiant Vladimir Poutine, est-ce que vous, dans les contacts que vous pouvez avoir et la connaissance que vous avez, vous considérez qu'on reste quand même dans un terrain rationnel ? C'est-à-dire que quand on prend des sanctions économiques, quand on prend un certain nombre de sanctions, ou ce qui est dit par les gens dans la vie de tous les jours en disant s'il est fou, on peut plus rien faire.
Je précise que Emmanuel Macron, et l'Élysée vient de le dire, parlera encore demain à Vladimir Poutine.
Le point de départ, c'est effectivement à Vladimir Poutine, et ça, il me le disait à moi, comme il le disait à beaucoup d'autres les derniers mois, qui était obsédé par l'Ukraine, et en lien avec cela, il reflétait son inquiétude affirmée, en tout cas, sincère ou non, pour la sécurité de la Russie. Il était obsédé par cette idée que nous mettions, nous, l'Union européenne, l'OTAN, que les extensions de l'OTAN étaient une menace, comme si, en tout cas, c'est ce qu'il nous disait, comme s'il redoutait qu'à un moment donné, il y ait la tentation de déclencher une guerre pour je ne sais quoi, pour envahir la Russie, ce qui évidemment est un sujet qui est vu de ce côté-ci.
Mais en vous Europe, parlez d'obsession
comme quelque chose d'absolument saugrenu.
C'est aussi le discours qu'ont certains diplomates ici de dire qu'il y a une part de responsabilité de l'Occident, que Vladimir Poutine, au cours de ces 10 dernières années, s'est senti agressé, s'est senti même humilié. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité de l'Occident sur ce qu'est devenu Vladimir Poutine aujourd'hui?
Les historiens pourront écrire tous les livres d'histoire et il faut respecter cela. Moi, je peux vous indiquer en tout cas une certitude, c'est que mon expérience, les derniers mois et les dernières années, nous avons été beaucoup au contact avec la Russie, pour justement essayer de prévenir le risque d'aggravation, le risque d'escalade. On a été très très nombreux à bien comprendre que l'on devait être extrêmement engagé pour écouter, pour voir s'il y a des sujets où des coopérations étaient possibles. Et nous avons, nous, des difficultés avec la Russie, pas seulement aux frontières Est, c'est très spectaculaire et très grave aux frontières Est, mais ça fait quelques temps, déjà quelques années que l'on voit qu'il y a une démarche hostile de la part de la Russie au sud de l'Europe pour nous déstabiliser. Et ça coûte pas très cher, c'est avec des actions qui mettent en place une sorte de business model avec des mercenaires qui captent des ressources
naturelles.
Je parle de l'Afrique, je parle par exemple de la République centrafricaine, je parle du Mali, je parle de l'Afrique de l'Ouest, je parle aussi de la Libye, je parle aussi de la Syrie. Donc on voit bien qu'il y a un raisonnement et un schéma qui est construit au départ de la Russie, qui a chaque fois ce point commun qui est comment la Russie peut démontrer que la Russie fait partie des grands de ce monde sur le plan géopolitique. Et peut-être aussi, là où les États-Unis regardaient la Chine comme étant, et la région Indo-Pacifique comme étant, l'enjeu des prochaines décennies. Peut-être que cet élément-là a aussi encouragé la Russie à considérer qu'il fallait se rappeler au bon souvenir des grands de ce monde pour montrer qu'il y avait un acteur qui avait aussi l'arme nucléaire et qui devait se faire respecter.
Karine Bécard.
Mais du coup, ça veut dire que l'Europe, l'Union européenne, va devoir changer sa relation avec la Russie, et si oui, dans quel sens ?
Avant de parler de la relation entre l'Europe et la Russie, je pense qu'on doit s'interroger sur quelles sont les conséquences pour l'Europe de ce qui s'est passé dans la crise Covid, c'est une chose, et dans ce qui se passe maintenant. Et il faut être de bon compte. Certains Européens, peut-être pas tous, mais certains Européens, depuis plusieurs années déjà, font l'analyse que l'Europe doit développer plus de capacités stratégiques, d'autonomie, d'indépendance, appelez ça comme vous voulez, cette idée d'être moins dépendant pour que l'Union européenne prenne plus et prenne mieux son destin en main. Et celui qui a très bien structuré cette pensée-là, c'est le président français, Emmanuel Macron, à la Sorbonne. Alors au moment de la Sorbonne, certains étaient un peu hésitants, les faits lui donnent raison. Et on voit bien que l'agenda, qui est l'agenda européen depuis quelques temps maintenant, c'est l'agenda qui vise à remplir de substance ce concept d'une Europe plus stratégique dans le domaine économique, où nous avons des faiblesses, des forces et des faiblesses, et dans le domaine domaine de la sécurité et de la défense. Et ce sera du reste, je vois bien, la cohérence, l'agenda de Versailles. On aura ce sommet dans quelques jours à Paris. Et on devra effectivement voir comment l'Union européenne se déploie. Et dans ce cadre-là, la relation à la Russie sera aussi un sujet, bien sûr.
Vous avez dit peut-être pas tous en parlant des pays européens tout à l'heure. Et vous aviez dit également peut-être pas tous au moment où vous parliez des livraisons d'armes. Est-ce qu'il y a une espèce de bloc qui est moteur dans l'Europe et d'autres qui sont un peu à traîner les pieds?
Je précise que votre rôle est aussi de travailler à une position commune.
Exactement. Voilà, donc vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais bon.
Je vais vous répondre. D'abord, c'est vrai que c'est un rôle qui est engageant, mais qui est exigeant. C'est de construire l'unité en permanence et d'être dans
C'est plus facile à 27 qu'à 28, non?
C'est une manière de voir les choses. Mais s'agissant de la question que vous posez sur certains, deux choses. D'abord, sur les livraisons d'armes, on doit prendre en compte le fait que certains pays ont un statut de neutralité sur le plan européen.
Et donc, on a vu quand même des choses incroyables. C'est-à-dire, on a vu la Suisse bouger. Alors, je sais que c'est pas concerné, mais on a vu quand même en 2-3 jours des choses qui ne s'étaient pas produites.
Mais vous anticipez ce que j'allais vous dire, puisque même les pays qui sont neutres politiquement pour des raisons liées à leur histoire, même ces pays ont utilisé ce qu'on appelle l'abstention constructive, ce qui permettait pour eux-mêmes de dire voilà, notre statut ne nous permet pas, mais nous ne voulons pas empêcher que l'Union européenne puisse agir. Donc, c'est effectivement ça dans le sens que vous indiquez. Sur la question de la souveraineté européenne, là, c'est le sujet intéressant. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques années, probablement, on était minoritaire. Il y a le président Macron, quelques autres, j'en étais également, à penser qu'il fallait avoir plus d'ambition sur le terrain de la défense européenne, de la souveraineté, sur le terrain économique. Et puis, on voit que les états d'esprit ont changé et que le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, en réalité, les circonstances montrent qu'il est en train de gagner la bataille des idées sur le plan européen et la bataille de l'action sur le plan européen. Exemple, ce fonds de relance qui a été mis en place, investir ensemble pour prendre en compte le climat, les investissements dans les technologies énergétiques et construire ce monde post-Covid, c'était quelque chose qui était peut-être vu comme saugrenu dans beaucoup de pays européens quelques semaines encore avant que la décision ne soit prise. Je me souviens de mes conversations avec Angela Merkel lorsque les idées ont été émises. Au départ, l'Allemagne n'était pas enthousiaste sur le sujet. Et puis, en quelques semaines, la force de conviction, la force d'argumentation, l'esprit rationnel fait qu'on fait progresser. Sur les armements qui sont livrés, c'était exactement la même chose. Et je pense avec beaucoup de sincérité, pour l'avoir vécu de très près, que le week-end passé, ce fameux samedi matin, quand Zelensky me téléphone, quand je décide d'appeler non seulement Borrell, mais tous les chefs d'État et de gouvernement les uns après les autres, c'est un moment copernicien pour l'Union européenne. C'est un moment où on comprend que l'Europe de la défense, c'est bien d'en parler, c'est bien d'être dans la théorie, mais là, maintenant, on est confronté à la réalité, et c'est peut-être le moment où est née l'Europe de la défense.
Mais si copernicien, c'est-à-dire que si vous avancez pas, ça sera aussi copernicien dans l'autre sens, et ça montrera, si on laisse l'Ukraine se faire envahir et les autres...
C'est bien pour cela que 1000% de notre temps est dorénavant consacré à ce sujet-là et que nous essayons en Européens et avec nos partenaires de prendre les décisions. C'est peut-être intéressant de constater ceci. Je suis intimement convaincu, pour avoir souvent parlé à Vladimir Poutine, que le calcul de Vladimir Poutine, le calcul machiavélique de Vladimir Poutine, la certitude intime, sa conviction personnelle, avant d'appuyer sur le bouton « j'envoie 160 missiles en 24 heures », c'était un « l'Ukraine ne résistera pas plus de quelques heures, tout va s'effondrer ». Il s'est trompé. Deuxième calcul, c'était « l'Union européenne va s'effriter, va se démanteler parce que tout le travail de sape qui a été mené pour diviser les Européens depuis des années va produire ses fruits, ses résultats. Il y aura une incapacité d'être unis. Il s'est trompé. Et peut-être se disait, quand bien même ils seraient unis, ils seront unis pour ne pas agir, pour ne rien faire. Il s'est trompé aussi. Peut-être pensait-il aussi que les tensions auxquelles on a parfois assisté entre l'Europe et les États-Unis allaient aussi montrer l'effritement du lien transatlantique. Il s'est trompé. Quatre erreurs. Ça ne veut pas dire encore que la bataille est gagnée. Et au moment où je vous parle, les Ukrainiens souffrent des attaques absolument immondes, y compris sur les civils. Mais ça veut dire que cette capacité de solidité que nous avons pu affirmer en ces derniers jours, avec des actes, livraison d'armes, mobilisation de capacités financières, engagement sur le terrain humanitaire, victoire diplomatique, cette résolution aux Nations Unies votée il y a quelques jours est très importante parce qu'elle montre bien une défaite éclatante. Et c'est important pourquoi? Parce que si le soir avait été plus équilibré, alors Vladimir Poutine avait un levier pour faire croire au reste du monde qu'en réalité il se battait contre l'impérialisme de l'Europe, de l'OTAN, etc. Les Africains n'ont pas été dupes dans la majorité d'entre eux. Les Asiatiques n'ont pas été dupes. L'Amérique latine n'a pas été dupe, puisque seuls 5 pays dans le monde, c'est peu, ont soutenu la position de la Russie.
Claire Gatinois.
Vous avez dit tout à l'heure que Emmanuel Macron était en train de gagner la bataille des idées sur la construction de cette Europe de la défense. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui
pour mener à terme ce projet.
Non, je pense que les pas en avant, je viens de le dire, ont été faits, ils sont gigantesques. Et avant cette guerre qui a démarré en Ukraine, on avait décidé les coïncidences facétieuses du calendrier qu'avant la fin du mois de mars, le Conseil européen à Bruxelles, cette réunion-là, se prononcerait sur ce qu'on appelle la boussole stratégique. Mmh. La boussole stratégique, c'est un peu le document originel pour lancer de manière plus opérationnelle cette Europe de la défense. Alors, Europe de la défense, de quoi parle-t-on ? Ça veut dire développer nos capacités industrielles, nos capacités spatiales, développer l'intelligence artificielle.
Mais ça veut dire déjà un budget. On a le budget ou pas ?
On a dans le dernier budget développé les moyens pour faire en sorte que l'Union européenne puisse amorcer ce projet. Et surtout, quand vous regardez les budgets européens, en réalité, nous dépensons beaucoup d'argent et on a augmenté en matière de défense. Mais nous ne synchronisons pas assez. Ça veut dire qu'on n'est pas assez interopérable. Et ce que nous devons faire, c'est veiller à ce que les investissements soient bien choisis afin qu'on soit plus interopérable pour qu'il y ait demain davantage de capacité politique de déployer des moyens de sécurité quand c'est nécessaire pour défendre nos intérêts et pour défendre nos valeurs.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Charles Michel avec nous en direct sur France Inter dans Questions politiques jusqu'à 13h pour évoquer évidemment la crise ukrainienne et ce que peut l'Europe. Vous venez de parler de défendre les valeurs européennes. Ça passe aussi et peut-être même d'abord par des sanctions économiques. Alexandra Bensaï nous a rejoint pour un moment effectivement consacré à ce dossier.
Bonjour Charles Michel.
Bonjour.
Vladimir Poutine compare les sanctions économiques mises en place par l'Occident à une déclaration de guerre. Est-ce que le président russe a raison ? Est-ce que c'est ce que nous faisons ? Nous menons une autre forme de guerre à la Russie.
Non, il n'y a pas de guerre de l'Union européenne ou de l'OTAN contre la Russie. Il y a une guerre qui a été déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, c'est un premier élément. Par contre, c'est vrai qu'il y a une réaction qui est extrêmement ferme et nous utilisons les instruments à notre disposition, la puissance économique de l'Union européenne et de nos partenaires, avec un déclenchement de sanctions sans précédent. Et ça veut donc dire, soyons très clairs, qu'on a construit ces sanctions pour faire mal au régime, pour essayer d'infléchir la position du régime. On vise les personnes, les oligarques, le système, Vladimir Poutine lui-même, Sergueï Lavrov lui-même sont visés. On vise les entités, secteur financier, secteur bancaire, les entreprises d'État, pour créer de la pression autant qu'il est possible. Et on a tenté de construire cette sanction pour limiter autant que possible les effets négatifs pour nous-mêmes, même s'il y aura des effets négatifs pour nous-mêmes, sans oublier les mesures de rétorsion qui seront probablement décidées tôt ou tard par la Russie.
On va en parler, mais alors justement, rappelons-le, hein, ces mesures, c'est le gel des avoirs de la Banque centrale russe, c'est l'exclusion de 7 banques russes du réseau de messagerie financière internationale SWIFT, et puis c'est donc, vous l'avez dit, le gel des biens des oligarques. Quel est votre bilan aujourd'hui ? Vous dites, ça produit ses premiers effets, et vous mentionnez que on sait qu'il y a des biens de Vladimir Poutine lui-même en Europe qui sont peut-être, qui commencent à être visés.
Non, je dis simplement que le système russe est construit autour d'un pouvoir politique extrêmement autocratique, premier élément, et une organisation complètement connectée d'oligarques avec un degré de corruption qui est absolument très élevé. Et ce que nous faisons, comme vous l'avez dit, on vise les personnes pour créer cette pression sur ces personnalités autour de Vladimir Poutine pour essayer de créer des failles dans le modèle politique, dans le modèle économico-politique de la Russie. C'est un premier élément. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de personnalités qui sont touchées. On vise, avec cette décision concernant la Banque centrale russe, à geler les avoirs à l'étranger pour toucher aussi au système économique et financier. Mais reconnaissons que c'est la première fois dans l'histoire que nous déclenchons un paquet de sanctions aussi massif. Et donc, pour une part, il y a un peu de terra incognita. Pourquoi ? Parce que provoquer ces sanctions va provoquer des changements de comportement que l'on ne peut pas parfaitement anticiper. C'est là pour laquelle, avec nos partenaires, en permanence, on vise à ajuster, à adapter, afin de limiter les effets négatifs pour nous-mêmes et de maximiser les effets. Par exemple, probablement, il y aura des astuces côté russe pour contourner certaines des sanctions, et on devra alors chaque fois agir et réagir sur ce sujet-là. Enfin, autre élément, nous avons une coalition, puisque c'est plus l'Union européenne et l'OTAN. On voit que de plus en plus de pays s'alignent aussi sur la stratégie en matière de sanctions.
Pour bien comprendre, l'esprit même de ces sanctions, c'est de renverser Vladimir Poutine ?
En tout cas, ce que nous pensons, je vais être prudent sur une expression sur ce sujet-là, ce que nous pensons, c'est qu'il faut faire une pression qui change le comportement, qui change l'orientation. Et quand je dis ça produit de l'effet, je voudrais quand même répondre à cette question-là. Pourquoi ? Parce que l'on voit bien qu'il y a une forme d'acculement, si je peux parler comme ça, du régime, qui prend des décisions qui sont terribles. On voyait que tous les réseaux sociaux sont maintenant fermés par le régime. Vous voyez qu'il y a une pression qui est très très forte et très inquiétante contre la liberté de la presse, y compris des médias occidentaux qui sont présents encore en Russie, avec l'annonce de cette sanction jusqu'à 15 ans de prison pour ceux qui auraient un discours déviant, supposé déviant, ou présenté comme étant déviant par rapport à la propagande officielle. Et plus récemment, hier, j'apprends, ça doit être confirmé, mais qu'on parle de rationner les denrées alimentaires. Donc on voit bien que c'est un retour dans des heures sombres de l'histoire de l'humanité quand un gouvernement va dans ce type d'orientation.
Les entreprises aussi ont réagi, hein. Les entreprises occidentales, les dernières, c'est quand même Visa et Mastercard, qui sont deux géants de la carte bancaire, hein, qui disent on suspend nos services en Russie. Que dites-vous, Charles Michel, aux entreprises européennes qui, entre partir et rester, n'ont pas encore choisi?
Moi, je n'ai pas de leçon à faire aux entreprises européennes. Je dis simplement que nous avons mis en place des sanctions. Nous demandons que ces sanctions soient implémentées, soient mises en œuvre. Ni plus ni moins. C'est ça que nous demandons.
Et lorsque un ancien président d'EDF, Henri Proglio, il s'exprime aujourd'hui, donc je vous en parle, il dit, moi, en effet, je suis au Conseil international du géant russe du nucléaire et je n'ai pas l'intention de démissionner. Et il y a d'autres Européens dans ce cas-là, il cite un Espagnol, un Italien. Est-ce que ça vous choque?
J'ai une opinion personnelle que je ne partagerai pas avec vous ce matin sur ce sujet, mais parce que je dois faire l'unité sur le plan européen, chacun peut apprécier ce type de décision, ce type de comportement. Moi, je me concentre sur ce qui est essentiel pour moi. Ont pris des sanctions, elles ont un effet. Certains pensaient qu'elles seraient légères, qu'elles seraient symboliques, ça n'est pas le cas. Elles sont fermes, elles sont dures, elles sont rugueuses, elles ont déjà un impact, je viens de vous l'indiquer. Ce n'est pas encore suffisant puisqu'on n'a pas encore réussi à cesser les hostilités, et donc c'est bien ce cocktail entre d'une part de la fermeté, des sanctions fermes avec un impact réel, et des canaux diplomatiques qui demeurent utilisés pour tenter d'aller vers des solutions pour stopper ce conflit le plus possible et pour essayer d'éviter qu'il ne puisse s'aggraver.
Ce n'est pas suffisant, vous venez de le dire. Ursula von der Leyen également, elle dit l'Union est prête à nouvelles sanctions sévères si Poutine n'arrête pas la guerre. Évidemment, notre conflit d'intérêts, c'est que nous achetons notre gaz et notre pétrole et que donc nous avons bien pris soin d'exclure les banques grâce auxquelles nous payons, la Sberbank et la Gazprombank, de ces sanctions. Est-ce que là, la guerre continue? On voit que ça s'aggrave sur le plan humanitaire. Est-ce que nous sommes prêts à faire pâtir ces banques-là des sanctions européennes? Est-ce que nous en sommes là?
C'est la difficulté de l'exercice, et je suis très franc avec vous, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais on a construit des sanctions pour qu'elles soient douloureuses pour le régime politico-économique russe, en essayant qu'elles ne nous rendent pas plus fragiles nous-mêmes. La question énergétique, on peut en parler. C'est un des sujets qui sera abordé à Versailles d'ailleurs dans quelques jours, et on ne découvre pas ce sujet-là aujourd'hui. Nous avons des fragilités, notamment notre dépendance, pas seulement au gaz d'ailleurs, mais aussi à d'autres.
Mais est-ce que ça peut aller jusque-là, les sanctions? Est-ce qu'évidemment, c'est ça l'arme?
Si vous me demandez mon avis à moi, je nous encouragerais collectivement à ne pas être bêtes et ne pas nous tirer nous-mêmes des balles dans le pied. Il y a des choses qui ont un impact très significatif. La Banque centrale russe, par exemple, pour la Russie, sans avoir un effet négatif direct pour nous, je n'exclus pas que cette question-là sera résolue ou sera réglée si il y a des mesures de rétorsion décidées par la Russie. C'est une option possible en matière de gaz. Encore faut-il que la Russie ait la capacité alors de vendre son gaz à quelqu'un d'autres. Ce n'est peut-être pas impossible, mais peut-être pas immédiatement. Ça prendra du temps d'adapter les réseaux pour vendre à quelqu'un. Mais pour quand même être, c'est important que les auditeurs entendent bien que ça fait maintenant très longtemps, avec d'abord le Green Deal et cette ambition climatique, que l'on sait qu'on a une fragilité en termes de dépendance. Et notre ambition d'énergie, d'investir notamment dans le renouvelable, c'est pour nous rendre aussi un peu plus indépendants à l'avenir. Et puis, sur ce sujet-là, nous sommes très très engagés politiquement, diplomatiquement, économiquement avec d'autres pays qui peuvent nous aider à diversifier à court et à moyen terme nos chaînes d'approvisionnement. Le Qatar, l'Algérie, l'Égypte, l'Azerbaïdjan, les États-Unis, par exemple.
Je voudrais vous parler de la facture, parce qu'évidemment, il va y avoir un coût pour les ménages. Certains économistes font tourner leurs tablettes, et ceux d'Allianz, par exemple, prévoient au moins 30% d'augmentation de la facture énergétique cette année, qui frapperait le plus durement les ménages modestes au Royaume-Uni et en Allemagne. Une facture qui augmenterait de 30% en moyenne pour tout le monde en Europe. Est-ce que ça fait partie de vos scénarios? Est-ce que c'est ce à quoi il faut s'attendre?
En toute réponse de Charles Michel, président du Conseil européen.
En tout cas, il est certain que ce qui se passe aura un effet négatif sur le prix de l'électricité, sur le prix de l'énergie et sur le prix des matières premières.
Mais on est dans ces ordres de grandeur?
Je ne veux pas commenter les ordres de grandeur, mais en tout cas, ça pourrait être effectivement significatif. Il y a des estimations qui circulent par rapport à cela. Mais moi, le message que je veux donner politiquement, c'est ça que l'on attend de moi, c'est que l'Union européenne doit être au rendez-vous pour protéger nos citoyens et nos citoyens les plus fragiles. Le projet européen est un projet fondé sur la paix et la prospérité. Paix et prospérité. Et ce sont ces deux enjeux-là qui sont sous pression aujourd'hui. Donc on doit se battre pour refaire la paix et reconstruire la paix quand il y a la guerre. Premier élément, c'est sur les actions de fer. Et deuxième élément, on doit être au rendez-vous, comme nous l'avons été dans le cadre du Covid, quand on a décidé de dégager des moyens pour investir ensemble et rembourser ensemble. Il y a maintenant en plus une menace sociale en conséquence aux perturbations économiques que l'on va probablement affronter. Nous devons être au rendez-vous avec une grande fermeté pour réussir, comme Union européenne, à soutenir le travail des États membres pour rencontrer la préoccupation très juste que vous avez décrite, singulièrement pour les plus fragiles et pour nos entreprises, notamment pour les petites entreprises.
Et ça veut dire quoi, protéger? Est-ce que ça veut dire des chèques? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un sujet d'ailleurs très important pour les Français, la France demande depuis des mois qu'on découple le prix du gaz et de l'électricité.
J'allais vous parler de ça.
Est-ce que ça devient possible? Les 27 étaient contre.
J'allais vous en parler. Il y a quelques semaines, la Commission européenne était plutôt réticente, pour des raisons techniques, je pense, à ouvrir ce débat-là sur le marché de l'électricité et ce lien qui est très fort entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Nous allons avoir ce débat à Versailles. On va avoir le débat à Versailles pour voir si on va charger la Commission d'aller vers des réflexions pour adapter les réglementations sur ce sujet-là. Premier élément. Deuxième élément, je crois, pour ce qui me concerne, que ce soit via des chèques, via des interventions sur les factures en réformant le prix de l'électricité, je crois qu'en effet, on doit être déterminé à protéger le pouvoir d'achat autant que possible et singulièrement des plus modestes, des classes moyennes. C'est tout à fait substantiel et je peux vous dire qu'il n'y a pas un chef d'État ou de gouvernement autour de la table qui n'a pas la lucidité que c'est bien ça qui est devant nous. C'est bien cet enjeu-là qui est devant nous.
Quel type de montant pourrait être présenté alors?
Enfin,
des aides européennes.
Je ne vais pas. Nous avons mobilisé dans le cadre du Covid, on en a été capable, des montants jamais imaginés dans le passé. La première priorité, c'est que ces montants qui ont été mobilisés soient bien investis, soient bien utilisés. Puisque ces montants, ils ne sont pas encore dépensés, mais je vous parle. On commence à mettre en œuvre ces plans. Ils doivent être bien investis pour corriger nos faiblesses et une partie de ces montants était déjà dédicacée aux politiques de cohésion sociale.
Est-ce que vous dites qu'effectivement, pardon, la question énergétique est l'une des grandes fragilités de l'Union européenne. Il y a certains pays de l'Union qui sont très dépendants du gaz russe, d'autres qui le sont beaucoup moins. Est-ce que justement, c'est pas là le point sensible qui pourrait faire exploser la solidarité européenne avec certains pays qui vont dire, moi, il n'y a aucune raison pour que je paye la facture alors que j'ai des centrales nucléaires chez moi, je ne suis pas aussi dépendant des autres du gaz.
Oui, mais d'abord, je pense que la tendance aujourd'hui que je ressens très fort, comme rarement, c'est un élan de solidarité parce qu'il y a la conscience qu'il faut aujourd'hui faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Et l'essentiel, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la prospérité, c'est l'avenir de ce projet européen. C'est de ça dont il s'agit. Donc je sens qu'il y a une conscience très forte par rapport à cela, premier élément. Deuxième élément, la solidarité, on doit toujours regarder ça avec toute la délicatesse. Par exemple, sans doute, on doit regarder quels sont les pays qui sont très dépendants du gaz.
L'Allemagne.
La Bulgarie aussi, par exemple, qui est un des pays les plus fragiles en termes de PIB sur le plan européen. Donc ce n'est pas que l'Allemagne, c'est d'autres pays au flanc est de l'Union européenne. Mais sans doute doit-on regarder les différents paramètres. Il y a des pays qui ont des capacités de résilience, c'était ça le sens d'ailleurs du fonds de relance au moment de la crise Covid, qui ont des capacités de résilience parce qu'ils ont une situation financière, budgétaire, qui est le fruit de la responsabilité, bien entendu, il faut le reconnaître, et de la rigueur et du sérieux budgétaire, et qui ont des PIB plus développés que d'autres sur le plan européen. Et tout l'enjeu du projet européen, c'est ce qu'on appelle la convergence, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de convergence sur le plan socio-économique. Quand il y a quelque chose qui crée une distorsion, ben on doit regarder comment, de façon intelligente et solidaire, on peut effectivement trouver le chemin.
Vous avez parlé tout à l'heure de compenser vis-à-vis des ménages les plus faibles ou les plus modestes les effets de cette crise. On voit dans les sondages en France que la guerre en Ukraine est devenue la deuxième préoccupation tout de suite derrière le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il y a des fragilités dans certaines opinions publiques? En gros, est-ce que vous pensez qu'on est prêts tous, nous Européens, si tant est que ce nous ait un sens, à supporter des difficultés, même pas toutes, si vous nous aidez, ou est-ce qu'il y a, vous sentez le degré d'endurance ou de résilience, comme on dit, des opinions européennes très variable selon les pays.
Je vais vous répondre avec une totale franchise. Je pense la manière dont, et peut-être de façon, ça va vous surprendre, mais la façon dont le président Zelensky a communiqué et communique a un impact majeur sur ce qui se passe au sein de l'Union européenne, parce que je pense qu'il nous aide dans sa communication très sincère, très authentique, très courageuse, à faire en sorte que nos citoyens soient conscients du sérieux de la situation et comprennent bien que cette guerre, ce n'est pas une bataille misérable pour un territoire loin de chez nous. D'abord, Kiev, c'est à quelques heures d'avion à peine de chez nous, mais il nous aide à expliquer avec pédagogie à nos populations partout en Europe quel est l'enjeu. C'est et ce que je ressens pour l'instant, c'est qu'il y a une ce que vous décrivez, il y a à la fois un sentiment d'inquiétude qui est légitime, mais il y a aussi une conscience de nos citoyens que ce qui est en jeu,
On ne veut pas mourir pour Kiev, mais on veut bien payer pour Kiev, et ça, c'est valable chez les 27.
En tout cas, c'est vraiment mon expérience des derniers jours et des dernières semaines. C'est vraiment partout en Europe que je ressens cette même conscience de ce qui se passe est sérieux et qu'on doit se retrousser les manches, être intelligent et déployer tout ce que l'on peut faire.
Vladimir Zelensky a remis un souffle dans l'histoire européenne, est-ce qu'il a plus fait en quelques jours que les dirigeants européens depuis 70 ans?
Mais je pense que le projet européen, a révélé son génie quand on était confronté à l'adversité et quand on était confronté aux crises. D'ailleurs, le moment originel de l'Union européenne, c'est cette tragédie qui a ensanglanté notre continent et le monde. Et encore une fois, c'est une adversité. On a eu le Covid, c'était une adversité. On a maintenant une guerre qui est sanglante et tragique. Et paradoxalement, il y a un comportement, une décision de Vladimir Poutine, j'en ai parlé, les quatre erreurs qu'il a commises qui ont consolidé l'Union européenne. Et puis vient s'ajouter à cela la lumière, la force d'une personnalité, Vladimir Poutine. Et j'en parle avec des frissons, parce que je pense qu'il se bat d'abord pour son pays et pour les valeurs auxquelles il croit.
Vous avez dit Poutine,
c'était surprenant.
Je parle bien du président Zelensky. C'est bien de lui dont je parle, évidemment. Il se bat avec un courage extraordinaire. Et je pense qu'il éveille nos consciences. Je pense que la façon dont il s'adresse à nous, il éveille nos consciences. Et moi, je le dis, la façon dont il communique nous aide en réalité à faire en sorte qu'on soit tous les yeux ouverts et conscients et en éveil et qu'on soit à la hauteur de la situation.
Vous le connaissez depuis quelques années, Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui sont étonnés de voir la mue d'un clown, comme on l'appelait parfois, à un chef de guerre héroïque?
Je suis peut-être pas objectif parce que j'ai développé, on a plus ou moins le même âge, et quand on s'est rencontrés assez vite, parfois ça arrive dans les relations personnelles, il y a un peu de chimie qui a fonctionné. Donc il y a eu une relation qui va au-delà du cadre professionnel et qui touche à l'estime réciproque. Et donc je suis peut-être pas le plus objectif, mais c'est vrai que depuis le début, j'ai eu la conviction de sa sincérité, de son authenticité, j'ai eu la conviction de son intelligence, son habileté pour essayer d'amener son pays vers le chemin des valeurs européennes et les gens autour de lui. Parce que, vous savez, au fur et à mesure de travailler avec lui depuis des années, on est aussi, mes équipes ont développé des liens personnels avec ses conseillers, avec ses porte-paroles, avec les ministres, etc. Et donc, il y a cette génération qui est la génération de Maïdan. J'ai été sur la place Maïdan avec le ministre des Affaires étrangères qui était là au moment des événements, quand des snipers tuaient les manifestants. Et ça, c'était pas il y a un siècle, c'était il y a peu de temps à l'échelle de l'histoire. Et donc, je pense qu'il y a cette conscience d'un peuple qui est une nation, qui a un esprit de patriotisme. Et c'est aussi encore sans doute une des erreurs de Vladimir Poutine. Lui qui voulait nier l'existence de ce peuple, de cette nation. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a bien une nation ukrainienne qui fait peut-être une leçon à beaucoup sur le plan de l'histoire.
Vous dites, Charles Michel, que l'Europe grandit à chaque fois pendant les crises. On a vu que pendant la crise Covid, elle a fait un pas énorme, en tout cas en économie, c'est-à-dire elle a emprunté en mutualisant sa dette. Est-ce que là, on vous écoute, on entend qu'il va falloir de l'argent pour la défense, qu'il va falloir de l'argent pour diversifier les approvisionnements en énergie, ne serait-ce que pour construire des terminaux de gaz naturel liquide. Est-ce qu'il est question aujourd'hui de créer une nouvelle dette commune face à la crise ukrainienne, ou bien d'étendre celle qui existe déjà? On a déjà 750 milliards.
Il peut y avoir des opinions différentes autour de la table sur un sujet pareil, vous l'imaginez bien. Moi, je voudrais donner mon opinion là-dessus et comment je vois les choses. Je pense que dans le court terme, la priorité, c'est de bien dépenser et investir l'argent qui est là. L'argent, il est là. Il n'est pas encore dépensé, il n'est pas encore investi. Commençons, puisqu'il est là, à faire les bons choix et à connecter nos décisions sur ce qui est important, c'est-à-dire réduire nos dépendances, réduire nos fragilités et prendre en compte cette situation de crise géopolitique extrêmement majeure. C'est un premier point. Puis deuxième point, moi je voudrais apporter un autre regard. Je pense qu'il y a un autre moyen à côté des fonds de relance pour booster de manière spectaculaire notre robustesse sur le plan économique. Alors c'est peut-être un peu technique, j'espère pas trop. C'est l'union bancaire et l'union du marché des capitaux. De quoi s'agit-il ? C'est de faire en sorte que l'Europe soit plus intégrée, disons-le, pour canaliser l'argent privé vers nos priorités. Aujourd'hui, il y a des freins qui touchent aux disparités, au morcellement dans le marché des capitaux d'une part et à l'absence d'union bancaire suffisante d'autre part. Je pense que si il y avait un conseil que je donnerais amicalement à tous mes collègues, c'est essayons maintenant de saisir cette occasion pour accélérer le processus, pour canaliser ces capacités de financement. Et puis un autre élément qui me tient à cœur, à juste titre, parfois on reproche la bureaucratie européenne, les lenteurs dans les décisions, etc. Je pense que maintenant, on a besoin d'un choc, d'un électrochoc de simplification administrative, parce qu'on sait où on doit investir, on sait quels sont les bons projets qui vont améliorer notre résilience, mais trop souvent, ça prend trop de temps entre le moment où on décide et le moment où l'investissement est réalisé. Et là, je pense que l'Europe, avec les États membres, on pourrait aussi faire preuve de bon sens.
France Inter. Hashtag Question Paul.
Charles Michel, président du Conseil européen, est avec nous jusqu'à 13h en direct sur France Inter. Le HCR parle ce matin au commissariat aux réfugiés de plus de 1,5 million de réfugiés arrivés d'Ukraine, essentiellement dans l'Union européenne. Est-ce que l'Europe est prête à les accueillir ? Où et combien de temps ?
Donc la réponse est oui, et je sens une solidarité à tous les étages, c'est-à-dire au niveau des gouvernements nationaux, au niveau des municipalités, au niveau des associations. J'étais à la frontière polonaise, c'est évidemment terriblement triste. Vous avez principalement des femmes avec des enfants, avec les maris, les papas, qui sont restés sous le feu des bombes, qui se battent. Et donc il est certain que notre devoir, pas seulement politique, notre devoir moral, notre conscience européenne doit nous amener à être au rendez-vous. Et je sens que nous allons pouvoir être au rendez-vous.
Mais comment cette aide, combien de temps en fait ?
Est-ce qu'il y a des clés de réparation ? Je voudrais vraiment savoir. On arrive en Pologne. Est-ce qu'on demande d'aller dans tel ou tel pays ? Ou est-ce qu'on vous impose ? Est-ce qu'il y a des pays qui traînent les pieds ? Comment c'est les clés de répartition ?
Donc pour l'instant, on n'est pas dans des calculs d'apothicaire de clés de répartition. On est dans la solidarité immédiate.
Il faut bien qu'ils aillent dormir quelque part et qu'on les flèche.
Oui, et donc je vais vous expliquer. Donc la plupart de ceux qui sont arrivés dans les premiers jours sont des personnes qui ont de la famille ou des amis, soit en Pologne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Et la plupart d'entre eux restent en Pologne quelques heures et puis naturellement vont vers des pays où il y a une attache possible pour eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on aura des personnes qui ont attendu avant de venir parce que peut-être ils n'ont pas d'attache sur le plan de l'Union européenne. Et c'est en cela que l'on va, avec la Commission européenne, se déployer, que chacun des pays, spontanément j'en suis sûr, va annoncer sa capacité d'accueillir dans la dignité des familles ukrainiennes. Et je suis très, très optimiste sur la façon dont nous allons pouvoir réussir à gérer ce sujet-là. Je suis optimiste par rapport à cela, mais je suis évidemment dans l'émotion par rapport à la déchirure des familles concernées.
Mais c'est comme le dit Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre où il faudra mettre en place un système de répartition, de quotas ? Est-ce que cette crise humanitaire liée à la guerre en Ukraine peut réussir cette solidarité que les autres crises de réfugiés n'ont pas réussi.
D'autant, Charles Michel, qu'on commence à évoquer une guerre possiblement très longue.
Oui, la question, bien sûr, elle est légitime parce que l'Union européenne a une tradition de controverses politiques sur la question migratoire. Dans tous les pays européens, c'est un sujet qui nourrit les tensions, les passions, etc., etc. La question est légitime.
Il y a d'ailleurs déjà des tensions entre la France et le Royaume-Uni.
Ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'Ukraine, la frontière directe. Pour arriver dans un lieu sûr, c'est l'Union européenne. C'est une différence avec les crises qu'on a connues dans le passé. Il y a la géographie qui n'est pas exactement la même. C'est un premier élément. C'est un pays avec lequel nous avons un accord d'association qui est la forme la plus puissante de partenariat entre l'Union européenne et un pays tiers, indépendant du débat sur la demande d'adhésion de l'Ukraine. Et donc, j'entends bien la question qui est légitime. Moi, je peux que vous dire quel est mon sentiment sur base de ma compréhension, de ma connaissance. J'ai plutôt l'impression que spontanément, on est tous du côté de la solidarité sans faille.
Mais c'est un accueil qui sera limité dans le temps ou pas, qui sera limité au temps de guerre ?
La Commission européenne a proposé déjà un statut qui facilite considérablement les démarches administratives, et donc je pense qu'il faut essayer de donner un message rassurant et un message d'espoir. On aura évidemment des analyses en fonction de l'évolution dans le temps de la situation. Mais je pense que dans l'immédiat, il faut dire aux Ukrainiens qui fuient la guerre que nous avons les bras ouverts, qu'on va les accueillir avec dignité.
Alors, dignité, solidarité sans faille, mais comment est-ce que l'Europe s'assure que les étudiants, notamment africains, étudiants en Ukraine, soient aussi bien traités que les réfugiés ukrainiens quand ils arrivent
dans l'Union européenne ? Je suis content que vous me posiez cette question-là. Je suis très content parce que je pense que c'est un bel exemple où nous avons été pour partie collectivement dans le monde et en Europe victimes de la propagande russe sur le sujet. Je me suis informé très précisément. Quelle est la situation ? En fait, il est vrai que du côté ukrainien, il y a eu pendant plusieurs jours, c'est moins le cas maintenant, de très très longues files à la frontière parce que les Ukrainiens voulaient identifier quelles étaient les personnes qui quittaient le territoire. Et il semble que des étudiants d'origine africaine ne comprenaient pas pourquoi ils devaient faire la file alors qu'eux n'étaient pas concernés par cette démarche de la part de l'Ukraine. Donc ça a pu donner lieu à des tensions et chaque discrimination doit être condamnée avec la plus grande fermeté par l'Union européenne. Mais clairement, au départ de cela, la Russie a activé une propagande hostile dans un moment où on faisait la bataille diplomatique aux Nations Unies pour tenter d'inciter dans des pays africains le soupçon, le doute. C'est exactement la même méthode que l'on connaît au Mali ou en République centrafricaine. Donc, soyons clairs, il peut y avoir des comportements discriminatoires qui sont inacceptables, il faut les condamner. Mais en aucun cas, ni côté ukrainien, ni côté polonais, il y a eu une dimension qui visait à discriminer délibérément qui que ce soit. Quand j'étais physiquement présent à la frontière, quand je dis physiquement présent, avec mon pied sur le sol ukrainien, pour accueillir ces personnes qui arrivaient avec une valise, avec un sac à dos, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants africains. J'ai pu parler directement avec eux et j'ai pu constater que ces étudiants africains étaient aidés, étaient soutenus pour pouvoir rentrer chez eux dans leur famille. Lorsque j'étais en Pologne, par exemple, il y avait déjà eu 1500 étudiants nigérians qui avaient pu être rapatriés grâce aux autorités polonaises.
Allez, il nous reste quelques minutes. D'abord, petit erratum, Emmanuel Macron est en train de parler à Vladimir Poutine. C'est pas demain, c'est en ce moment. Et la question que je voulais vous poser pour les dernières secondes, ces dernières minutes, c'est on se projette sur Versailles, le sommet de Versailles, au château de Versailles, jeudi et vendredi prochain. Qu'est-ce que Charles Michel, président du Conseil européen, en attend ? On espère.
Un message fort sur trois points. C'est trois points qui touchent à la souveraineté. La question énergétique, nous devons donner des orientations pour guider la Commission européenne afin d'avoir un agenda à court et à moyen terme pour être moins dépendant sur le point énergétique. Deuxième point, sécurité et défense. Quelles sont maintenant les opérations que l'on met en place ? L'activation des synchronisations, Fonds européen de la défense, initiative industrielle européenne. Et troisième élément, la robustesse économique. Et là, le marché des capitaux, la question de l'union bancaire, les leviers que nous avons pour essayer d'être moins dépendants dans le secteur des minéraux critiques et des microchips, des puces électroniques,
je ne connais plus les semi-conducteurs.
Des semi-conducteurs, merci beaucoup. Des semi-conducteurs sont les sujets sur lesquels nous avons besoin de l'impulsion au plus haut niveau européen. Ces 27 chefs d'État et de gouvernement, chacun directement responsable démocratiquement, face à leur parlement, face à leurs médias, face à leur population, doivent donner les impulsions pour synchroniser, pour donner du bon sens, de la cohérence et de la puissance à cet agenda de souveraineté et d'indépendance européenne.
La question d'une éventuelle adhésion, puisqu'elle l'a demandé très officiellement, l'Ukraine, pas seulement d'ailleurs, il y a aussi la Moldavie et la Géorgie, ce sera éventuellement une question qui sera abordée ou pas du tout ?
Oui, donc le débat certainement aura lieu sur ce sujet-là. Je ne pense pas qu'il y aura une décision qui sera prise sur ce sujet-là. Donc ce que nous attendons, c'est que la Commission européenne puisse rendre une opinion. C'est comme ça que ça fonctionne, d'avoir une opinion de la Commission européenne. Et puis peut-être un deuxième point rapide, vous savez qu'il y a des opinions différentes entre pays européens sur le thème de l'élargissement en général. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que ça touche à nos modes de décision en Europe. Le droit de veto des États membres fait qu'au plus on élargit, au plus il y a l'inquiétude que ça rende difficile la capacité d'agir vite quand c'est nécessaire, même si on a pu le faire ici, on l'a bien vu. Et donc beaucoup disent on doit regarder cette question d'élargissement en regardant si on peut en parallèle rendre plus flexible, plus agile nos capacités de décision. C'est un débat légitime, je trouve. Et puis, à ce que vous avez évoqué, quand on regarde l'Ukraine, il y a d'autres pays qui regardent l'Europe avec le désir de rejoindre l'Union européenne. Et on doit aussi prendre en compte la perspective plus large. La Moldavie et la Géorgie, entre-temps, ont introduit une demande officielle. Vous savez qu'il y a aussi dans les Balkans occidentaux des discussions en cours sur ce sujet.
Dernière question, il nous reste quelques secondes, elle est pourtant très très difficile. Est-ce que l'Europe n'est pas prête à abandonner l'Ukraine pour sauver la paix mondiale ?
Non, l'Europe n'abandonnera pas l'Ukraine parce qu'abandonner l'Ukraine, c'est abandonner les valeurs européennes.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis midi sur ce plateau de questions politiques. Merci Charles Michel, président du Conseil européen. Je remercie Jean-Philippe Ballas et Alexandre Gilardi pour la préparation de l'émission. Hélène Ginestous, Mathias Alléon et Jérémy Kaufmann à la à la technique ce midi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Alexandra, merci Nathalie, merci Claire et merci Karine. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions Politiques.
Merci à vous.